L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Et ce matin, nous sommes en compagnie du procureur de la République. Bonjour Yves Dupas.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous, monsieur le procureur, au lendemain de ce long week-end du 24 septembre qui avait été placé sous haute surveillance des forces de l'ordre. On le disait, peu d'incidents majeurs à signaler. Il y a tout de même eu des interpellations au cours de ce week-end.
Oui, nous avons eu une quinzaine d'interpellations. Deux personnes vont être déférées aujourd'hui. L'un pour incendie volontaire avec un feu de brousse conséquent. L'autre pour un caillassage sur les forces de l'ordre. Mais globalement, un week-end relativement calme.
C'est ce que disaient donc les services de l'État. La justice aussi était mobilisée pour ce week-end.
Tout à fait. Nous avions renforcé effectivement notre périmètre avec deux magistrats de permanence au parquet.
Alors on en parlait tout à l'heure avec Léana Colombo, le ministre de l'Intérieur porte plainte après des propos tenus par un député de la France Insoumise qui parle d'assassinat de Kanak par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 km. Comment peut se passer ce type de procédure finalement, parce qu'il parle d'incitation à la haine contre les forces de l'ordre?
Ce sont des propos indignes et indécents qui peuvent effectivement revêtir une qualification pénale, très clairement, à l'égard des forces de l'ordre.
Alors ce sont des choses qu'on a entendues aussi localement, notamment par le FLNKS, qui a parlé d'assassinat, qui a même parlé de génocide. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce type de dépôt de plainte localement contre, par exemple, le Front indépendantiste?
Alors, nous avons, depuis le 13 mai, une vraie désinformation, qui circule par rapport aux événements de la Nouvelle-Calédonie. Moi-même, j'avais fait un certain nombre de recadrages, puisque une élue avait indiqué à un moment donné que les forces de l'ordre tiraient sur les barrages, y compris sur des enfants, ce qui est totalement inacceptable. Et donc, bien évidemment, des poursuites peuvent être engagées, notamment du fait de diffamation, avec une plainte, notamment du commandant des forces de gendarmerie ou du directeur territorial de la police nationale. Tout ceci est possible. Je crois qu'il faut que chacun intègre le cadre de la loi. Il convient de s'abstenir de ce genre de position, de déclaration qui sont anormales dans un état de droit.
Alors c'est une déclaration du député de la France Insoumise et ensuite du FLNKS, donc des déclarations qui interviennent après la mort de deux hommes à la tribu de Saint-Louis lors d'une opération de police judiciaire. Vous avez très rapidement publié un communiqué pour revenir sur ces événements. Est-ce qu'il y a du nouveau d'ailleurs, tout d'abord dans ce dossier de cette intervention et de ce tir du GIGN?
Alors, vous savez que j'ai saisi le bureau des enquêtes judiciaires de l'inspection générale de la gendarmerie nationale sur cet usage des armes par le GIGN sur ces deux hommes qui ont décidé, il faut le dire aussi, d'aller jusqu'à la confrontation extrême vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc une enquête est ouverte du chef de coup mortel. La première autopsie est intervenue, donc un homme touché au niveau du bas de l'abdomen, avec une veine effectivement atteinte, ayant provoqué une hémorragie, un décès donc lié à cet usage des armes. L'autre autopsie est prévue dans les jours qui viennent. Ce qu'il faut bien évidemment mener comme investigation, c'est de vérifier si cet usage des armes était légitime ou non. Et c'est tout le travail de ce service d'enquête qui est un service très particulier. L'Inspection générale de la gendarmerie nationale agit en toute indépendance. C'est d'ailleurs un service qui est présidé, dirigé par un magistrat. Et donc, là aussi, c'est l'idée de la recherche, de la manifestation de la vérité. Le parquet mène ses enquêtes en toute impartialité.
Les gendarmes qui avaient essuyé des tirs juste avant, d'ailleurs une arme a été saisie chaude encore.
Trois armes ont été saisies. Hein. J'ai tenu à diffuser cette photo avec ces trois armes, dont l'une était encore chaude, hein, avec effectivement des douilles hein, qu'on retrouve sur place. Donc une volonté, c'est la particularité hein, de l'état des lieux judiciaires à Saint-Louis. C'est cette radicalisation extrême de certains jeunes et de certains délinquants donc, qui cherchent cette confrontation absolue avec les forces de l'ordre. Juste sur cet état des lieux judiciaires à Saint-Louis, nous avons depuis le 13 mai un certain nombre de procédures criminelles. Hein, il faut rappeler quand même que nous sommes saisis d'abord des faits de meurtre sur le gendarme Molinari intervenu le 15 mai. De 60 carjackings, dont un certain nombre avec usage d'armes hein, et des victimes qui ont été particulièrement traumatisées. Je pense à une famille avec les enfants hein, qui ont été concernés par ces faits. 45 procédures visant des tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles. Ça représente quasiment 330 tirs. Sur les gendarmes. Donc vous voyez, ce sont des procédures criminelles bah, qui font encourir pour certaines d'entre elles la peine maximale, la réclusion à perpétuité, et donc une dangerosité particulière d'un groupe d'individus qui, jusqu'au 10 juillet, comptait 19 personnes, 19 auteurs présumés. Hein. Le 10 juillet, c'est Roquamitan Dibanane qui décède lors d'un affrontement. Le 19 septembre, c'est deux autres jeunes qui décèdent lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. Et puis, nous avons interpellé sept personnes. Et au cours du week-end, d'ailleurs, deux auteurs présumés de tentatives de meurtre, hein, de tir sur les gendarmes, ont été mis en examen et incarcérés. Donc, nous sommes à sept incarcérations au cours des 10 derniers jours. Il nous reste 9 interpellations. Et nous tenons à procéder à ces 9 interpellations dans les meilleurs délais.
Alors, il y a eu un dialogue qui s'est instauré aussi avec les responsables coutumiers de la tribu de Saint-Louis. Vous avez invité ces personnes donc, qui sont des suspects à se rendre à la gendarmerie. Il y en a eu deux qui l'ont fait pour des tentatives de meurtre et un, je crois, pour du recel de vol. Et il n'y en a pas eu d'autres durant le week-end. Est-ce que vous avez aussi fixé un ultimatum, par exemple, pour dire vous avez jusqu'à telle date pour vous rendre, sinon on viendra eh bien, vous interpeller dans la tribu?
Alors, il n'y a pas d'ultimatum, il y a deux solutions. Ou c'est la reddition, ou ce seront des interpellations. Et il n'y a pas de pause.
Hein, c'est ce qu'a demandé Roquamitan.
Alors, le grand chef Roquamitan peut effectivement demander cette pause. L'action de la justice ne permet pas effectivement ce type de pause. D'abord parce que la conduite de l'enquête, elle a son rythme, hein, cette enquête. Nous avançons. Ce qui compte, c'est bien évidemment cette recherche de la manifestation de la vérité. Hein. À partir du moment où une enquête permet d'établir un certain nombre d'éléments à charge suffisants, eh bien, vient le temps de l'interpellation, hein, ou de la convocation ou de l'interpellation. Nous avons délivré, suite à une réunion avec les coutumiers, un certain nombre de convocations à l'ensemble de ces personnes qui sont recherchées. Vous l'avez dit, hein, trois personnes se sont présentées, effectivement, suite au dialogue qui a pu être renoué entre les coutumiers et les auteurs présumés, leurs familles, c'est une bonne chose. Mais le temps presse. Nous devons absolument mener à terme nos enquêtes judiciaires et donc nous procéderons à de nouvelles interpellations à défaut d'une reddition de ces auteurs présumés.
Et ce sont donc des opérations de police judiciaire qui se déroulent dans un contexte d'hostilité vraiment importante. On l'a vu effectivement ces derniers jours. Concrètement, comment ça se passe pour monter ce type d'opération? Parce que vous êtes évidemment vigilant à la vie des gendarmes.
Oui, moi j'ai toujours considéré qu'il était impératif de prendre en compte les risques pour la sécurité des forces de l'ordre. Moi je ne souhaite pas exposer de manière inconsidérée les forces de l'ordre. Hein. Nous avons déjà perdu un gendarme sur les lieux le 15 mai. Hein. Effectivement, c'est un élément très important. Donc, des opérations de surveillance, des opérations d'infiltration, des opérations, bien évidemment, de suivi très attentif, qui nous ont permis de procéder quand même à un certain nombre d'interpellations, et nous allons continuer.
Ces interpellations, elles se sont déroulées au sein de la tribu ou à l'extérieur, quand les gens sortent
au
du verrou?
Au sein de la tribu, au sein de la tribu. Hein. Et c'est important, effectivement, d'avoir cette organisation hein, entre les enquêteurs, hein, les directeurs d'enquête, et puis, bien sûr, les forces de sécurité intérieure qui nous permettent de procéder à ces interpellations. Et donc, le risque, effectivement, est toujours apprécié, quantifié, et quand le risque est trop élevé, nous patientons, effectivement. Hein, je pense qu'il faut savoir parfois différer une opération hein, par souci de sécurité pour les forces de l'ordre.
Alors vous avez permis aussi aux coutumiers d'accompagner ceux qui sont incarcérés ou qui seront incarcérés. C'est aussi un moyen peut-être d'avoir un certain nombre de redditions à venir.
Écoutez, moi je préfère une reddition à une confrontation qui peut aller jusqu'à la mort hein, de la personne dans un acte jusqu'au boutiste. Donc oui, moi je me suis engagé, je respecterai cet engagement vis-à-vis des coutumiers. C'est de leur permettre parce qu'ils ont une autorité morale sur ces jeunes, de leur permettre d'assurer un accompagnement matériel et moral de ces jeunes s'ils étaient incarcérés au centre pénitentiaire de Nouméa. C'est un engagement que je tiendrai et c'est effectivement aussi l'idée de peut-être aussi de s'intéresser à ces jeunes. Pourquoi cette dangerosité? Pourquoi cette radicalisation violente hein, jusqu'à ce niveau inouï de violence. Je crois que les coutumiers aussi hein, s'interrogent sur leur rôle et sur ce qu'ils peuvent apporter à ces jeunes.
Et aujourd'hui, le travail d'enquête permet de dire que si ces 9 personnes sont interpellées, alors la route pourra rouvrir, la sécurité sera garantie sur Saint-Louis.
Ce qui est sûr, c'est que cette route ne pouvait pas effectivement être laissée ouverte hein, dans les conditions que l'on sait, avec cet état des lieux judiciaires, avec cette radicalisation violente. Le haut-commissaire Louis Lefranc a pris la bonne mesure, et d'ailleurs avec une approche tout à fait partagée en ce qui me concerne. Nous mènerons nos opérations d'interpellation qui devraient permettre effectivement enfin la réouverture de cet axe à partir de ce terme de ces enquêtes.
Alors on évoquait tout à l'heure les propos de Rocco Amitan qui a dit que ces jeunes avaient suivi, des jeunes radicalisés qui avaient suivi un mot d'ordre politique de la part de la CCAT. Où en est cette enquête sur les commanditaires présumés des exactions qu'on connaît depuis le 13 mai? On sait qu'il y a eu un refus du dépaysement du procureur général Bruno Dalle. C'était à la demande des avocats du FLNKS. Concrètement, comment se passe l'enquête aujourd'hui?
Eh bien, l'information judiciaire se poursuit, hein, toujours sous l'autorité de nos deux magistrats instructeurs qui doivent procéder d'ailleurs à l'audition d'un certain nombre de personnes mises en examen. Et donc le travail d'enquête se poursuit, hein, c'est important à dire. Bien évidemment, le parquet suit également, hein, bien sûr, ce travail d'enquête très légitimement. Ce qui compte, en tout cas, c'est, on le voit, hein, un certain nombre de victimes, de grands groupes économiques s'intéressent, bien évidemment, aussi à cette réponse pénale s'agissant des commanditaires présumés. Et donc, nous avons d'ores et déjà un certain nombre de constitutions de parties civiles dans ce dossier dorsal visant les commanditaires présumés.
Et c'est peut-être le côté inédit aussi de cette enquête, en tout cas de l'ampleur de l'enquête, puisqu'il y a finalement peu de gens mis en examen sur ce dossier, 13 pour l'instant, concernant les commanditaires présumés, mais en revanche, le nombre de parties civiles pourrait être très important.
Bien sûr, le nombre de parties civiles pourra être très très conséquent. Hein. C'est un dossier bien sûr hors norme, mais c'est un dossier qui doit effectivement prospérer sur le territoire. Hein, nous en sommes convaincus avec le procureur général. La bonne administration de la justice commande que ce dossier reste au TPI Nouméa et soit effectivement conduit ici sur le territoire.
Et la justice met les moyens, notamment logistiques, pour pouvoir auditionner les différentes personnes ?
Alors la justice, d'abord depuis le 13 mai, a déployé un certain nombre de moyens complémentaires. Hein. Nous avons eu un renfort de magistrats du siège, de magistrats du parquet, de fonctionnaires. Nous aurons normalement à compter du 1er novembre une brigade hein, de magistrats et de fonctionnaires. Donc un renfort effectivement nouveau pour nous, hein, qui est conséquent, pour permettre de traiter l'ensemble des procédures. Parce que très clairement, c'est un marathon judiciaire que nous menons hein, en ce moment. Hein. Parce que nous sommes à quasiment 2300 gardes à vue. On approche les 500 déferments, hein, dans quelques semaines ils seront atteints, et donc bien évidemment avec des enquêtes très approfondies qu'il reste à mener. C'est un travail énorme, une situation effectivement très, très conséquente pour nous, mais nous sommes déterminés, en tout cas au niveau du ministère public, hein, nous sommes en première ligne, nous sommes déterminés à mener ce travail. Et l'idée, c'est, en tout cas à la demande des chefs de cour, c'est de la création d'un troisième cabinet de magistrats instructeurs qui pourrait, là aussi, parce que les juges d'instruction ont été amenés à être saisi de manière très importante hein, depuis le 13 mai. Donc de nombreuses ouvertures d'informations judiciaires sont intervenues. Et donc bien évidemment, l'idée c'est de renforcer le service de l'instruction pour pouvoir traiter l'ensemble de ces procédures très lourdes.
Est-ce qu'on peut imaginer d'autres interpellations dans le cadre de l'enquête sur les commanditaires présumés ?
C'est l'objet de cette information judiciaire, c'est le travail des magistrats instructeurs. Et à ce stade, je ne peux pas vous en dire davantage.
C'est du temps long.
C'est un temps long, mais un temps nécessaire.
Merci beaucoup, monsieur le procureur de la République, Yves Dupas, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.